Aujourd'hui, Monsieur Julien va évoquer la grande peur qui terrorisa les Saint-Antoninois pendant l'été 1789. Avez-vous trouvé, Madame Julien, une musique pour traduire la frayeur de nos ancêtres?
Tous les amateurs de musique connaissent d'Anton Dvorak la symphonie du Nouveau Monde. Je prends encore une fois des libertés avec la chronologie, puisque nous voici tout à fait à la fin du XIXe siècle. Mais on ne peut guère retrouver chez les compositeurs du XVIIIe les accents effrayants et épouvantables qui auraient convenu pour cette émission. C'est donc Anton Dvorak qui nous apportera aujourd'hui sa couleur, son lyrisme, ses effets épiques dans le passage que j'ai choisi. Il s'agit du troisième mouvement, le scherzo. Mais aussi, vous aurez l'honneur de voir évoluer la milice bourgeoise de Saint-Antonin qui va défiler sous vos yeux en chantant Fanfan la Tulipe.
Monsieur Julien, on a vu la semaine dernière que le début de l'année 1789 s'était passé très calmement finalement à Saint-Antonin.
Oui, très calmement, jusque à cette fameuse journée du 31 juillet, qui est relatée dans un procès-verbal de la séance du Conseil de ville du 4 août 1789. C'est le maire Guillaume Lacombe, vous vous rappelez, un médecin, qui évoque au cours de la séance, au début de la séance, je cite, je le cite, l'épouvante qui s'était répandue dans cette ville et dans les environs. Dans la séance du 6 août, c'est-à-dire le surlendemain, il parle encore, en ouvrant la séance, de l'alerte qui eut lieu dans cette ville le 31 juillet dernier et jour suivant. Dans celle du 9 août, enfin, décidément, vous le voyez, on se réunit beaucoup à ce moment-là, dont le procès-verbal est suivi de 165 signatures. C'est quelque chose d'exceptionnel. On n'avait jamais vu aussi nombreuses assistances depuis le temps de la République protestante. Dans cette séance du 9 août, donc, le même maire Lacombe s'exprime ainsi. Personne de vous, messieurs, n'ignore à quel soin nous nous sommes livrés depuis l'alarme terrible dont vous avez été témoins le 31 du mois dernier. L'épouvante s'était emparée de tous les cœurs. Nos femmes en pleurs désertaient la ville pour aller s'isoler avec leurs enfants dans les forêts ou dans les cavernes de nos rochers, répandant partout un effroi mortel. Vous vîtes bientôt accourir en foule et en armes au secours de nos foyers, tous nos voisins déterminés à nous soutenir. Spectacle vraiment frappant durant les 2 jours qu'ont duré nos anxiétés. Que s'est-il donc passé à Saint-Antonin en ces terribles journées des 31 juillet, 1er et 2 août 1789? Qu'est-ce qui a pu provoquer cette alerte, cette alarme terrible, cette épouvante, cette panique générale qui s'empare de toute la population, provoquant la fuite éperdue des femmes et de leurs enfants et l'arrivée de cette foule en armes? Quel terrible danger a donc menacé notre ville pour justifier cet affolement et cette évocation apocalyptique du maire? Pour le savoir, écoutez la relation précise des faits, telle qu'elle figure dans un autre document de nos archives, daté, lui, du 5 septembre, c'est-à-dire qu'on a eu le temps de réfléchir un peu. C'est un certificat, en quelque sorte, une attestation. Nous, maire et consul, attestons que le 31 juillet dernier, nous reçûmes une lettre de messieurs les consuls de cette fond à 10h du matin, suivant laquelle 30 000 hommes, disait-on, avaient investi et dévasté Cahors et venaient à Caussade. Cette nouvelle jeta l'alarme. On courut aux armes. Le tocsin sonnait dans toutes les paroisses, amena à Saint-Antonin beaucoup d'hommes armés de faux, de fusils, de haches, de piques, de broches. La poudre et le plomb furent enlevés chez les marchands. Ceux qui en avaient chez eux, en bar ou autrement, le fournirent. On fit fondre des balles, des lingots pour recevoir l'ennemi. 2 heures après, une lettre de messieurs les consuls de Caussade, envoyée express, nous rassure en ne nous annonçant que 4 000 hommes brigands. Nous envoyons un détachement à Caussade, composé de 25 hommes d'élite, la plus grande part à cheval, commandée par M. Touron, bourgeois. Une partie de nos juridictionnels du Quercy se change elle aussi à Caussade en armes pour donner du secours. Le soir, il arrive beaucoup d'étrangers de nos environs. La ville est illuminée pendant la nuit que la plupart des habitants passassent sans se coucher. Le lendemain, il arriva en cette ville 1 000 à 1 200 hommes armés venant de l'Albigeois, de Verfeil, Najac et autres villes voisines. On forma nombre de compagnies qui restèrent sous les armes, hors la ville, jusqu'à 9 heures du soir, que la ville leur fournit du vin, du pain, au moins pour 600 à 700 personnes. Un grand nombre passa la nuit sous les armes. Le 10 jour, samedi 1er août, on reçut de bonnes et de mauvaises nouvelles. Enfin le dimanche, 2 août, le bruit courut que le couvent de Beaulieu avait été incendié par les brigands. On députa diverses personnes pour s'en assurer, et la nouvelle se trouva fausse. On se décida sur de bonnes nouvelles de Caussade, que c'était une fausse alarme, à renvoyer chacun chez eux, ceux qui étaient venus à notre secours. Et l'on fit part de ces bonnes nouvelles aux maires et consuls de Corde, avec lesquels le comité de sûreté établi dans cette ville le 1er du mois d'août entretenait une correspondance pour se prêter mutuellement du secours. Dès le jour suivant, on fut entièrement rassuré, mais ayant été recommandé de se tenir sur ses gardes, on établit une garde bourgeoise au corps de garde du Bioc. Cette relation des faits, présentée donc plus d'un mois après les événements, quand les esprits se sont calmés, précise, claire comme un rapport officiel, est un document exemplaire. Elle nous apprend que cette panique générale n'avait en fait aucun fondement réel, qu'elle était née de nouvelles colportées, propagées de ville en ville depuis le nord, de Cahors, de Paris. Nouvelles propagées vers les coins les plus reculés des lointaines provinces, développant cette sorte de psychose collective, cet affolement général qui a gagné les populations françaises en ces derniers jours de juillet 1789, jours qui ont suivi la prise de la Bastille et que l'on a appelé la Grande Peur. Cette Grande Peur qui poussera ici et là les paysans a brûlé quelques châteaux et les papiers qu'ils contenaient, ces papiers symboles séculaires de leur asservissement et de leur misère. Rien de tel chez nous, faute de grands seigneurs, sinon cette fausse nouvelle de l'incendie de l'abbaye de Beaulieu, dont la richesse et les privilèges la font assimiler aux seigneurs et aux privilégiés.
Cette panique générale n'avait donc aucun fondement. Elle était née d'un bruit que l'on avait fait courir. Est-ce que, dans l'étude de cette grande peur qu'en ont fait les historiens par la suite, on a pu mettre en évidence l'origine de ces fausses nouvelles colportées à travers la France et le but de cette opération?
À ma connaissance, jusqu'à ce jour, non. J'ai pourtant lu tous les ouvrages des historiens principaux de la Révolution. Suivant le bord politique auquel ils appartiennent, ils émettent des hypothèses, font des supputations. Pour les uns, ce serait un coup monté des aristocrates, c'est-à-dire du comte d'Artois, le frère de Louis XVI qui deviendra plus tard Charles X. Pour d'autres, ce serait un coup monté par la franc-maçonnerie. Pour d'autres, ce serait un coup monté par le haut clergé. Toutes les hypothèses passent et repassent. Albert Mathias, qui est à mon avis un des historiens les plus avertis sur la période révolutionnaire, se garde bien de se prononcer sur l'origine. Non, c'est une psychose collective qui s'explique peut-être par l'émotion qu'a soulevée à Paris la prise de la Bastille et le bruit qui s'en est répandu dans toute la France. Voilà la seule explication que je peux donner. Dans cette période d'incertitude, n'oublions pas, où les gens ont très faim, où le peuple est dans une situation matérielle particulièrement difficile. Et c'est là que se développent ces espèces de psychoses qui créent les paniques.
Oui, parce que finalement, cette grande peur n'a servi aucune des causes.
Mais c'est-à-dire, si. Elle a servi la cause, si on peut dire, la cause des patriotes. Elle conduira nécessairement, elle met en alerte en permanence tous ceux qui veulent un changement de régime, tous ceux qui déjà commencent de comprendre que le régime monarchique ne va pas du tout. Et je pense que la grande peur est le premier ébranlement du mouvement populaire qui entraînera la chute de la royauté. Elle a été profitable à ça, si c'est un profit, enfin, ça, c'est discutable aussi.
Vous nous avez dit que des hommes des villes alentours venaient prêter main forte aux Saint-Antoninois.
Mais
en agissant ainsi, ils affaiblissent leur ville. Alors pourquoi est-ce que Saint-Antonin était plus particulièrement menacé?
Oui, c'est-à-dire, bon, Saint-Antonin est une ville importante quand même dans le petit coin où nous sommes. C'est la petite capitale du coin, du Barouergue. Mais attention, il faut bien suivre la lecture que j'ai faite. Hein. Les nouvelles viennent de Cahors. Bon, et elles sont transmises par les consuls de Cette Fond et de Caussade. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous envoyons 25 hommes à Cette Fond et à Caussade. Qui est-ce qui vient nous secourir, nous? Ce sont des gens qui viennent de l'Albigeois, c'est-à-dire de Cordes de Millard. Et ce sont des gens qui viennent de Najac, qui viennent de la Guépie, qui viennent de Varennes. C'est-à-dire les gens qui sont derrière. Ils ont toujours le temps d'être attaqués, ceux-là. C'est très imagé, cette progression des défenses. Elles viennent de l'arrière, vers l'avant. Et ma foi, il vaut mieux se défendre à Saint-Antonin, par exemple, pour les gens de Cordes qu'à Cordes, en risque moins.
Le maire et les consuls ne disent pas qui sont ces hommes qu'ils craignent. Ils parlent d'hommes brigands. Oui. Et pourtant, ils établissent une garde bourgeoise. On a l'impression que, sans le dire ouvertement, une partie de la population se méfie de l'autre.
Évidemment. Et les événements qui vont se succéder à Saint-Antoine dans les jours qui suivent vont amplement le montrer. Il est sûr que pour les bourgeois, que sont les consuls, ces brigands, ce sont des hommes du bas peuple, comme on disait. Et c'est pourquoi l'épouvante passée, l'inquiétude reste quand même, surtout, justement, chez les membres de l'aristocratie locale saint-antoninoise, et en particulier chez les consuls qui découvrent brusquement la précarité de leur situation qu'ils croyaient bien assise depuis des années, sinon des siècles, et que l'émotion populaire risque d'ébranler. Ils ont vu, et ils voient encore, le peuple, le bas peuple comme ils disent, s'émouvoir, s'assembler, discuter, crier, s'interroger, les interroger dans les rues, sur les places. Et rien n'est plus inquiétant pour un bourgeois qu'une foule agitée. Une foule agitée qui connaît en ce début d'août 1789 des conditions de vie de plus en plus misérables. Alors, des précautions sont prises pour maintenir, dit-on, le bon ordre et la police dans cette ville et veiller à la sûreté publique. Cette formule de bon ordre, de sûreté publique, revient à chaque page, au cours de chaque déclaration du maire devant le conseil de ville. C'est pour maintenir le bon ordre et la sûreté publique que le conseil de ville décide dès le 1er août la constitution d'un comité patriotique et de sûreté de 12 membres, 12 notables bien entendu, chargés d'assister le maire et les consuls dans leurs tâches difficiles. C'est pour maintenir le bon ordre et la sûreté publique encore que le conseil de ville et le comité de patriotique et de sûreté réunis décident le 2 août l'installation d'une garde bourgeoise au corps de garde du Bioc. Et à cet effet, la formation de 20 compagnies de 25 hommes commandées chacune par un capitaine et un lieutenant. On met sous les armes, si on peut dire, parce que des armes il n'en avait pas que quelques piques, 500 hommes à Saint-Antonin, dans la ville de Saint-Antonin, imaginez un peu. Chacune de ces compagnies assurant tous les soirs la garde de l'entrée de la nuit jusqu'au lever du soleil, avec des patrouilles de surveillance qui vont et viennent dans la rue et aux abords de la ville pendant toute la nuit et qui veillent à la tranquillité publique. Cette milice bourgeoise deviendra officiellement, en exécution du décret de l'Assemblée nationale du 10 août, la milice nationale, plus tard la garde nationale de Saint-Antonin.
Il y a donc 500 hommes, monsieur Julien, qui sont recrutés pour cette
Oui.
garde nationale.
Oui.
Comment, vous nous en parlez un peu, comment est-elle constituée? Est-ce que ce sont des hommes rémunérés qui font...
Non. La garde bourgeoise, comme son nom l'indique, est essentiellement constituée de bourgeois. Il est difficile, évidemment, d'admettre qu'il ait pu y avoir 500 bourgeois à Saint-Antonin sur une population de 4000 habitants. Nous allons définir un peu plus précisément comment étaient composées les compagnies de garde bourgeoise. On désignait d'abord les 20 capitaines, qui étaient choisis, eux, vraiment parmi les bourgeois, c'est-à-dire les anciens notables du conseil de ville, et on donnait à chacun un quartier de la ville. Pas le quartier de la Porte Rodanaise, le quartier de la Place, le quartier du Bioc, le quartier des Carmes, le quartier de la Place Saint-Michel, etc., etc. Hein, on divise la ville. Et chaque capitaine, là, va se mettre en devoir de recruter les 25 hommes de sa compagnie. Il va évidemment choisir d'abord les bourgeois. Personne ne refuse de participer à la garde bourgeoise. Il n'y a pas de franc-tireur, là, il n'y a pas de gens qui renâclent. Hein. Au contraire, c'est un honneur. On va sauver nos propriétés, on va sauver la sécurité, le bon ordre. Ils sont tous prêts pour ça. Mais évidemment, on n'arrive pas à boucher tous les trous. 25, c'est beaucoup. Et 20 fois 25, ça fait 500. Donc, on verra dans les compagnies de la garde bourgeoise entrer de petits artisans, de petits, oui, et même des brassiers et des journaliers pour faire un nombre. Mais ils seront en toute petite minorité. En principe, c'est la garde bourgeoise et il ne devrait y avoir que des bourgeois ou des marchands. C'est-à-dire des gens du tiers-état supérieur et pas du tiers-état inférieur. Ainsi donc, grâce à cette garde bourgeoise, solide garde bourgeoise qui monte la garde, on se croit tranquille et assuré contre tout désordre et contre les menées subversives des perturbateurs. Voilà un mot qui revient souvent aussi, les perturbateurs. Ah, ces perturbateurs. Ils ne vont pas tarder à se manifester. Ce sont ceux, anciens protestants, artisans et aussi gens de conditions plus modestes, qui depuis près de 2 siècles n'ont plus voix au chapitre dans la commune. Ils entendent bien, eux, qu'il faut que les choses changent. Ils n'acceptent plus que les affaires de la communauté soient réglées presque à huis clos par le petit comité de notables en place, toujours les mêmes. À peine connue la composition du comité de sûreté, ils protestent, s'insurgent contre la présence d'ecclésiastiques parmi les membres de ce comité et exigent leur exclusion immédiate. Cette exigence a dû être sans doute assez menaçante puisque, dès le 4 août, le maire et les consuls réunissent le conseil de ville pour, disent-ils, afin de maintenir l'union qui doit régner parmi les citoyens de cette ville et ne point donner d'ombrage à certains esprits turbulents qui pourraient exciter des troubles. Ils s'empressent de faire droit aux exigences justement de ces esprits turbulents et ils excluent, séance tenante, les chanoines et les carmes du comité qui se trouvent alors reconstitués de la façon suivante. Au premier rang du comité de sûreté, le comte de Lastic Saint-Jal, dont c'est la première apparition dans les affaires publiques et qui semble avoir la confiance des bourgeois, mais aussi des esprits turbulents. Après lui, François Beaulle, avocat au Parlement et juge royal. Après lui, Antoine Bromet, avocat. Jean-François Berry, avocat. Thomas Pomies, avocat. Et qui est Thomas Pomies, le représentant local de l'intendant qui existe encore, mais qui ne se manifeste plus beaucoup maintenant. Puis Jean Forgenel, marchand, Joseph Lacombe, avocat au Parlement, Pierre Bromet, fils, avocat au Parlement, Boyer, ancien capitaine de dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, Jean-Baptiste Joseph Chabiré Roux, négociant, Jean-Baptiste Cantarel, apothicaire, et François Pomies, fils, avocat au Parlement. Voilà le comité de sûreté. Si vous trouvez beaucoup de révolutionnaires là-dedans, dites-le-moi.
Et oui, monsieur Julien, mais il me semble que le peuple semble se méfier davantage du clergé que de la noblesse et de la haute bourgeoisie. Pour quelles raisons, d'après vous?
Ben, essentiellement parce que il faut comprendre que dans cette ville, ancienne ville protestante, il y a une rancœur accumulée depuis un siècle maintenant à cause des persécutions qu'ont subies les anciens protestants. Ces anciens protestants qui maintenant sentent qu'ils ont le droit à la parole. Hein. Et nous en trouverons beaucoup dans le cours de notre histoire. Pour le moment, dans le comité de sûreté, la patriotique de sûreté, il n'y en a aucun. Mais ils vont apparaître bientôt dans la municipalité. Et ils ne veulent plus voir de ces membres du haut clergé qui leur en ont fait voir. Hein. Passablement, nous l'avons vu au cours des démissions antérieures. Hein. C'est essentiellement ça, le fait des protestants. Et puis il y a aussi le bas peuple qui est scandalisé par la vie somptueuse que mènent par exemple les chanoines de Saint-Antonin. Ils n'admettent pas que ces gens soient qualifiés pour les défendre. On le voit, de toute façon, au comité de sûreté et patriotique, ce ne sont que des gens de la noblesse et de la haute bourgeoisie. Ils sont priés par le maire de bien vouloir se réunir à nous et nous aider de leur lumière pour parvenir au maintien du bon ordre et de la sûreté publique dans toutes les occasions. Voyons, on y revient encore. C'était décidément une obsession. De toute façon, on peut compter sur ces gens-là pour cette tâche. Et ils le prouvent dès le 9 août suivant, à l'occasion d'un incident, une altercation entre une femme du peuple, la femme de Duroc, un vitrier, et le sieur Berry, procureur du roi et capitaine de la garde bourgeoise. La femme du roc était assise devant la porte du corps de garde, là au Obio, quand le sieur Berry, raide de son importance, arrive pour assurer son service de nuit avec sa compagnie à laquelle, justement, appartient le mari de la femme du roc. Mais ce mari, il est absent. Alors le capitaine Berry interroge la femme sur le motif de l'absence du Duroc. Elle lui dit, eh ben, mon mari n'a pas été prévenu, il était allé à la Vorette pour travailler à l'église et au château pour mettre des vitres, et on ne l'a pas prévenu, donc il n'est pas là. Alors elle a dû le répondre d'une façon assez vive, et le capitaine Berry, agacé, lui ordonne de s'éloigner du corps de garde. Alors, dit-il, cette femme, dont la conduite scandaleuse est assez connue, refuse. C'est intolérable, vous comprenez, c'est une femme du peuple, que l'on soupçonne peut-être de paillardisme, enfin, hein, elle refuse cela. Alors il la menace de la mettre en prison. Elle s'éloigne de quelques pas, et elle s'assoit par terre, au milieu de la rue, et, dit Berry, à ce moment-là, elle profère à notre encontre de mauvais propos. Qui sait ce qu'elle a dû lui dire? Survient alors le jeune Antoine Poux, fils d'un marchand orfèvre, qui prend fait et cause pour la femme du roc, invective le capitaine Berry. Le ton monte. Poux, en gilet, les manches retroussées jusqu'aux coudes, pleines de fureur et de rage, c'est Berry qui parle, pénètre à la suite de Berry dans le corps de garde des officiers et il se dispose à enfermer la porte dans l'intention, dit toujours Berry dans son rapport, de nous y assassiner. Il y va un peu fort quand même. L'arrivée du lieutenant Antoine Laliès, perruquier, le Figaro de l'époque, sauve Berry de cette mauvaise posture, et Berry, séance tenante, la main tremblante de colère, rédige un procès-verbal que j'ai encore, et avec, appuyé par la déposition favorable d'Aliès, et il demande une punition exemplaire pour Poux et la femme du roc, dont le comportement est un dangereux exemple, dit-il. Alors le comité de sûreté est assemblé immédiatement, hein, ça se passait à 10h, vous allez voir, et enquête sommaire faite. Poux est condamné à 8 jours de prison et la femme du roc à 15. Il est 11h30 du soir, précise le greffier. On n'a pas traîné, ouf! On peut aller dormir tranquille après cette journée du 9 août particulièrement animée à Saint-Antonin.
a vu dans cette journée du 9 août Poux prendre parti pour la femme du rock.
Oui.
C'est un peu étonnant ce comportement parce que vous nous avez dit que Poux était orfèvre,
oui.
Donc d'un milieu assez aisé.
Bourgeois.
Et il prend parti pour une femme du peuple.
Absolument.
Comment ça se fait?
Et très nettement. Eh bien là, il n'y a qu'une seule explication. Je ne m'arrêterai pas, bien entendu, à l'explication facile que l'on pourrait trouver avec les propos qu'a tenu Berry, une femme d'une conduite scandaleuse. Hein ? Ça, c'est la colère qui lui a dicté ces mots, certainement. Poux est un ancien protestant. Il est protestant. Et il trouve insupportable qu'encore dans la ville, ce soit toujours les mêmes qui fassent la loi. Ce soit ce Berry qui, depuis des décades, est au pouvoir à titre de consul ou de greffier de la commune, qui est encore capitaine de la garde nationale et qui va encore faire assurer le bon ordre et la sécurité. Et ça, lui, protestant, il en a assez. Et ça explique sa réaction. Voilà donc comment se termine cette fameuse journée du 9 août par cet emprisonnement de Poux et de la femme du Roc qui sont mis en prison séance tenante. Ça avait été une journée très animée, cette journée du 9 août, et les consuls vont pouvoir aller se coucher, sans doute, à 11h30 tranquille. En effet, ce jour-là, dans l'après-midi, une assemblée nombreuse avait entendu un exposé du maire sur les événements récents, aussi bien locaux que nationaux, et avait voté à l'unanimité et par acclamation, nous dit-on, une adresse s'adressant premièrement au roi qui mérite, entendez bien, écoutez bien, au roi qui mérite notre amour, notre respect et notre fidélité, en lui offrant pour tous les temps nos vies et nos fortunes, vous entendez, pour la défense de son trône et de la monarchie. Une adresse aussi à l'Assemblée pour lui exprimer notre reconnaissance et notre dévouement que nous devons à nos généreux et sages représentants et en l'assurant de tout faire pour maintenir parmi nous l'amour de l'ordre et le respect des lois. On y revient. Enfin, une adresse, ça n'étonnera personne, surtout pas ceux qui connaissent leur histoire, une adresse à Monsieur Necre. Pour ce ministre Louis XVI, que Louis XVI a été obligé de rappeler après la prise de la Bastille, pour le remercier de ses travaux passés et lui garantir notre entière confiance. On le voit, fidélité au roi, à l'Assemblée, à Necre, pour maintenir le bon ordre, la sûreté publique.
Oui, c'est pas un peu contradictoire tout ça, monsieur Julien?
Je ne vois pas en quoi. Je ne vois pas en quoi. Parce qu'au fond, ces gens-là ne sont pas du tout républicains. Il y a abus, là. Quand on parle de la Révolution, on simplifie d'une façon extrême. En réalité, les gens de Saint-Antonin, en cette année 1789, sont dans une profonde admiration pour le roi. Il y faudra des événements beaucoup plus graves, la fuite du roi et la journée du 10 août 92, pour que quelques-uns ici perdent confiance au roi, mais pas tous. Le roi est inviolable et sacré. C'est pas contradictoire si on se reporte, à cette époque-là. Enfin bon, on a fait les adresses au roi, on a mis Poux et la femme du Roc en prison, on respire un peu maintenant. Après ces chaudes journées du mois d'août, on va pouvoir s'occuper des affaires courantes, c'est-à-dire d'abord la subsistance et l'assistance aux pauvres et aux mendiants devenus si nombreux, qui, suivant le compte remis par le syndic de l'hôpital, aura coûté en ce printemps 3 314 livres, 3 sous, 6 deniers, somme qui provient d'un emprunt communal de 2000 livres et d'une allocation de 500 livres de l'Assemblée de Haute-Guyenne et de dons des particuliers. Donc il a fallu dépenser plus de 3000 livres pour donner à manger à ceux qui mouraient de faim. On compte qu'il y a eu, là, cette année-là, jusqu'à 800 mendiants ou nécessiteux à Saint-Antonin. On s'occupe aussi des réparations urgentes à la tour de l'horloge qui s'écroule. La tour s'écroule, le beffroi actuel, il n'y était pas, c'était une tour, elle s'est écroulée. Il faut faire des réparations au pont, les inondations, les grêles, les ont ravagées, au four. Enfin, on s'occupe surtout de la taxation du prix du pain. C'était le maire, les consuls qui décidaient du prix du pain, rendu nécessaire par la pénurie de blé et les manœuvres des accapareurs. Le pain blanc est fixé à 2 sous, 6 deniers la livre, et le pain bi, 2 sous, 3 deniers. Cependant que la livre de viande de mouton, la meilleure, atteindra 14 sous. Elle était à 8 sous en 1750. Vous voyez l'inflation. Ça a presque doublé dans le siècle. Enfin, on s'occupe de l'organisation et de l'armement de la garde nationale qui, rassemblée en bataille, 500 hommes, au pré-commun, le 2 septembre, après que le prieur curé ait béni les deux drapeaux tout neufs achetés à Montauban, prêtera le serment, la garde nationale, de bien et fidèlement servir pour le maintien de la paix, pour la défense des citoyens et contre les perturbateurs du repos public. C'est la première fois que le mot citoyen est employé. Il va l'être maintenant couramment. Enfin, on va s'occuper de l'élection consulaire du 6 septembre, qui sait, celle-là, ne se déroulera pas comme les précédentes. C'est ce que je vous raconterai dimanche prochain.